les jardinières.
Le dicton en avril, ne te découvre pas d'un fil, était des plus justes cette semaine et le week-end ne s'annonce pas beaucoup plus chaud. Une bonne raison de s'installer confortablement et écouter les jardinières. Bonjour Brian.
Mais bonjour Mylène.
Olivier, vous avez bravé le froid pour nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour à vous Mylène, bonjour Brian.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Soyez le bienvenu.
Et merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Les températures ont grimpé, ça c'était dimanche passé, 25 degrés avant de chuter, on a envie de dire moins 25 degrés. On parlera justement des conséquences sur les végétaux dans quelques minutes. Et pour les passionnés de jardin, que faire malgré le froid ces prochains jours, Olivier ?
Alors justement, il y a un petit peu de patience à remettre en route là, parce que aller dans le jardin, ces périodes où c'est qu'il fait froid et que c'est très mouillé, les terres sont très, très humides, très grasses, donc c'est vraiment pas un bon moment pour aller dans son jardin, mais j'aime bien prendre exemple de certains travaux qu'on a fait pendant la semaine, nous, dans notre entreprise. Je prends un exemple concret, on s'est occupé de pas mal de plantes d'intérieur, même on est allé dans des bureaux et autres, et donc c'est une bonne, très bonne période pour tailler ces plantes vertes, les rempoter, leur remettre un nouveau terreau, les revitaliser avec un apport d'engrais par exemple, changer de pot s'il est trop petit. Donc on peut faire ça à l'intérieur, on peut faire ça dans son garage, on peut faire ça un peu n'importe où. Donc c'est quelque chose qui peut être fait maintenant et c'est une très très bonne période pour relancer la végétation de cette plante verte qu'on dit qu'a passé l'hiver et puis que maintenant le printemps va arriver. Donc si on veut faire repousser ces plantes d'intérieur, qu'elles aient du nouveau feuillage qui apparaisse dès les premiers beaux jours et puis des grandes chaleurs du printemps, du mois d'avril, mai, donc il faut vraiment profiter de cette période pour les rempoter, pour qu'elles aient de nouveau un système racinaire qui va se développer dans un nouveau pot, une nouvelle terre, pour avoir de jolies plantes pendant la saison d'été.
Et puis on peut aussi continuer les semis en intérieur de nos futurs légumes.
Alors tout à fait, tout ce qui est semis, il y en a qu'on aura déjà fait. On peut aussi, pour ceux qu'on en fait moins, continuer de semer ces petites plantes en utilisant bien sûr les endroits les plus lumineux de la maison, des vérandas ou alors sinon derrière des fenêtres où c'est qu'on peut faire ces petites préparations, ces petits semis dans des petites caissettes avec des petits cubes de terre ou des petits pots en tourbe ou des choses comme ça. Ça fonctionne très bien et puis faites attention, on n'a pas beaucoup de lumière, donc on a des journées qui sont sombres ou c'est que le soleil n'est pas présent. Donc il faut aussi diminuer beaucoup la l'humidité. Donc on met très très peu d'eau sur ces semis, on les mouille très très peu, très légèrement. Aussi à l'entretien des semis, ceux qui ont fait des semis de tomates, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Si on met trop d'humidité, la tomate va s'allonger très très rapidement. Donc même si elle a un peu soif pendant la journée, puis qu'on a l'impression qu'elle baille un peu, elle penche, elle flétrit, c'est très bien, ça la va durcir. Donc on va la laisser un peu comme ça. Et puis pendant la nuit, avec juste la différence des luminosités, elle va se redresser. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas trop mettre d'humidité dans ces jeunes semis.
Merci beaucoup Olivier. Vous êtes notre invité jusqu'à 8h et vous répondrez également aux questions jardinage de nos auditeurs. Et vous avez toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone au 0900 70 20 20 ou alors en remplissant le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières. Ou alors, troisième possibilité, simplement par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez ce message au 939.
Quelles sont les conséquences des variations de température sur nos jardins ? On en parle dans la suite des jardinières.
Les jardinières.
Le jardin subit les différences de température et il va falloir être vigilant pour éviter les différentes maladies. Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et ce matin, nous parlons de maladies de printemps, mais aussi de la pyrale du buis. Et cette fameuse pyrale du buis fait déjà des ravages dans nos jardins. Alors, bon, comment on la reconnaît ? À quoi ça ressemble une pyrale du buis ?
Pardon. Alors oui, la pyrale du buis, c'est quelque chose qui est devenu un fléau à chaque printemps. Ça se ressemble très facilement, ça se reconnaît très facilement, pardon. C'est une belle petite chenille avec des rayures vertes claires, vert foncé. Elle a des petits points noirs qui sont dessus. Je pense qu'on ne peut pas la louper. Si on a des buis, on cherche un peu, on les trouve très très facilement. Donc ça se reconnaît aussi vite fait, parce qu'on voit les dégâts qu'elles font. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour en trouver.
Et puis, est-ce que, comme son nom l'indique, justement, on ne la trouve que sur le buis ?
Alors, principalement sur le buis, on peut en trouver aussi un petit peu sur des bouleaux, on peut en trouver un petit peu sur d'autres plantes, mais on va se consacrer que vraiment sur le buis, parce que c'est une plante, un parasite qui est vraiment consacré à ce buis, parce qu'elle aime manger ses feuilles de buis. Donc, on est d'accord, c'est une chenille, donc c'est vorace, ça dévore une grande quantité de feuilles de buis en très peu de temps. Il faut savoir aussi qu'elles ont passé l'hiver sous forme d'œufs à l'intérieur du buis. Donc ces pyrales se sont déjà développées dans le centre du buis. Puis quand on commence à les voir sur les extérieurs du buis, eh bien l'invasion, l'infection de cette chenille est déjà très conséquente. Donc c'est déjà un stade qui est très très avancé quand on commence à la remarquer sur les bords du buis. Donc c'est là que ça devient compliqué parce que ça va très très vite.
Bah justement, qu'est-ce qu'on fait quand on l'a repéré, on coupe les buis?
Alors justement, c'est tout un processus. La pyrale de buis, bien sûr, il y a deux, trois procédés. Le premier, parce qu'on va toujours essayer de rester dans des méthodes manuelles, mécaniques, avant de passer dans la méthode forte, la partie chimique, parce qu'on peut les traiter, bien sûr. Mais si on n'a que très, très peu de buis, donc ce serait de les chercher, de les ramasser, les prendre une à une, parce que il faut faire attention aussi, c'est pas une chenille qui est nocive, contrairement à la chenille processionnaire, par exemple, pour ceux qui connaissent, parce qu'on va aussi commencer de voir ces chenilles qui vont apparaître sur différentes sortes d'arbres, mais elles ne se trouveront, ces chenilles processionnaires, jamais dans un buis. Donc dans le buis, on peut les prendre, on peut les mettre dans les mains, on risque rien. Par ceux qui sont un peu redoutables, ils peuvent les mettre, prendre des gants et autres. Mais sinon, on peut les ramasser. C'est une chenille qui est fort appréciée par les mères, les pinsons, qui se fait manger par justement quelques ennemis comme ça. Donc, on peut les mettre à un endroit pour que ces chenilles vont être mangées. Et ça, c'est une des premières solutions. La deuxième, des fois, on peut prendre aussi un jet d'eau assez puissant et puis gicler à travers le buis, parce que le buis a un feuillage très corsé, très fort. Donc, on peut gicler son buis, ça va déstabiliser toutes ces chenilles, peut-être ses œufs, ses nymphes qui restent avant que ça ne soit parti dans d'autres plantes. Donc on peut les gicler. Puis après, bien sûr, il y a la dernière partie, c'est on va trouver dans le commerce des produits à base d'huile, donc qui ne sont pas chimiques, qui sont vraiment un produit naturel qu'on va gicler, mais ça va mettre beaucoup de temps, ça va être difficile parce que c'est une huile qui va s'envelopper autour de la chenille, ça va l'empêcher de bouger, donc ça va l'empêcher de manger, et puis elle doit périr un peu comme ça. Donc c'est pas facile de combattre, surtout quand il y en a beaucoup, beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Ces pyrales du buis, elles sont déjà là à cause des températures chaudes. Et justement, oui. ces températures, on va en parler dans la suite des jardinières, parce que si ça amène les pyrales du buis, ça amène aussi d'autres maladies. Vous allez nous en dire plus d'ici quelques minutes.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. On parle de différences de température qui ne sont pas sans conséquences sur nos végétaux. Vous nous avez parlé de la pyrale du buis, cette chenille qui bouffe les feuilles du buis. Vous nous avez expliqué comment s'en débarrasser. Il faut aller les chercher une à une, les donner aux poules, si on a des poules. Par contre, on peut s'attaquer à elle plus tard, quand elle est devenue papillon.
Oui, alors en effet, on s'en rend compte justement quand le buis est en train de se faire manger, mais les adeptes de ces plantes qui veulent absolument les garder, parce qu'on commence d'en éliminer beaucoup, ça se trouve de moins en moins dans le commerce, le buis, à cause de cette problématique avec ces chenilles. Donc ce qu'on pourrait faire pour ne pas avoir ces problèmes d'attaque l'année prochaine, ce sera pendant cette période de cet été, c'est on trouve dans le commerce des petites boîtes, des petits pièges à papillons, donc parce que la chenille, après bien sûr, elle va se transformer en papillon, et puis ce petit papillon blanc de la pyrale du buis, comme on l'appelle, eh bien, on peut l'attraper facilement pour qu'il n'aille pas répondre justement des œufs, des larves pour se multiplier l'année prochaine. Donc c'est à ce moment-là qu'il serait le plus important que de combattre ces petits papillons pour éviter des grandes propagations l'année prochaine. Car l'année passée, on a eu des attaques de pyrale très très tard après les vacances, donc au mois d'août, on a eu encore des chenilles qui se sont promenées, qui ont refait des papillons, qui ont répondu avant l'hiver. Et c'est pour ça qu'on en a très tôt déjà cette année. Donc il faut faire attention sur l'insecte adulte, le papillon.
Et puis Olivier, on en a parlé justement de cette pyrale du buis, mais la variation de température, c'est aussi la porte ouverte aux maladies fongiques. C'est quoi une maladie fongique au juste ?
Alors, une maladie fongique qui se développe maintenant par ces grands écarts de température, froid, chaud, chaud, froid, c'est la maladie fongique, c'est une maladie de, c'est un champignon qui se développe. Alors, ça peut se développer à la surface des feuilles, ça peut se développer en dessous des feuilles, ça peut se développer sur le sol, ça peut se développer sur une caissette de semis, par exemple, qu'on a semé des jeunes petits plantules et puis qui vont tomber. On les remarque qui sont en train de tomber l'un après l'autre. On appelle ça la fonte du semis. Donc, une maladie fongique, c'est une maladie, c'est un champignon. Ça commence par ça, après ça pourrit, et puis après ben, les plantes elles ont vraiment beaucoup de peine à pouvoir se développer ou carrément mourir. Donc c'est dû pardon, à ces grandes températures qu'on a eues il y a quelques semaines, et après ben, il est venu beaucoup d'humidité et puis du froid, donc ça fait beaucoup de dégâts. On voit aussi sur les arbres fruitiers maintenant, par exemple, il y a la cloque du pêcher qui est une maladie fongique qui est très connue, c'est très propagé ces 2-3 dernières semaines, justement, de nouveau à cause de la température. Donc, c'est des maladies qui sont très rapides, mais qui restent pas très longtemps non plus sur les plantes, mais qui sont des fois néfastes pour le développement de la plante et puis du feuillage.
La fonte du semis, la cloque du pêcher, des maladies rapides, vous l'avez dit. Peut-être vous allez nous donner encore quelques conseils pour les identifier et que mettre en place, je cherche mes mots ce matin, pour se débarrasser de ces maladies fongiques. Vous allez nous en parler d'ici quelques minutes. Ça sera après une pause musicale, météo et inforoute. Et puis si vous voulez quelques mots sur la météo, eh bien sachez que ça va cailler ce week-end.
7h. 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est tous les samedis matins entre 7h et 8h en direct et en compagnie d'un professionnel prêt à répondre à vos questions jardinage. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy.
Et pour poser vos questions jardinage à Olivier, vous avez trois possibilités, par téléphone au 0900 170 20 20, ou alors via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières, avec la possibilité de joindre une photo, ou encore par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Ce matin, on parle des différences de température qu'on a subies ces dernières semaines, ces derniers jours, ce qui peut provoquer des maladies au potager. Alors, vous nous avez parlé des maladies fongiques, de la cloque du pêcher, de la fonte du semis. Comment on fait pour repérer ces maladies avant qu'il ne soit trop tard pour nos végétaux, Olivier ?
Alors, le problème, c'est de les repérer avant. C'est compliqué parce que tu vas les remarquer quand la maladie se sera développée. Il faut savoir que, en tant que bon jardinier et puis bon passionné des plantes et autres, on a des plantes qu'on sait d'année en année qui sont susceptibles à différentes maladies. On a vu dernièrement dans des jardins maintenant les petits pois, par exemple, qui sont en train de grandir. On a déjà vu des petits pois qui ont 15-20 cm de haut. Donc, c'est une plante qui est très sensible à l'oïdium, par exemple. C'est une maladie qui vient se poser sur les feuilles, qui est comme de la farine blanche. Donc c'est quelque chose qu'on sait qui vient fortement sur cette culture. On a aussi par exemple les fraises maintenant qui sont en train de se développer, qui commencent de grandir. Donc on va aussi voir sur ces plantes fraisiers des fois chez certains qui vont faire des taches brunes, des petites taches rondes. Donc c'est tous des petits symptômes qu'on va remarquer sur des cultures, sur des plantes différentes. C'est chaque fois différent, c'est chaque fois une maladie différente. Donc la chose qu'il y a, c'est qu'on les remarque. Bien sûr, il ne faut pas toujours courir vite aller chercher sa pompe et puis commencer de combattre tout ça, parce que ça ne sert à pas grand-chose, parce que c'est aussi fait pour que la nature puisse aussi avancer. Donc la chose, c'est que souvent, on a peur, parce que ces températures nous ont amené ces petits problèmes de maladie, mais ça va disparaître dès qu'il reviendra des périodes chaudes, sèches, où c'est qu'on n'a plus cette humidité constante. Eh bien, ces champignons vont disparaître tout seuls parce qu'ils vont sécher naturellement. Et puis, ben, par contre, quelques feuilles vont tomber, surtout chez les pêchers. Il y a des pêchers qui vont perdre 10, 15, 20% de leur feuillage, mais vont refaire un nouveau feuillage quand il fera meilleur, avec des feuilles plus saines et puis qui n'auront plus ces petits problèmes de maladie.
Et Olivier, est-ce qu'il serait utile de traiter nos arbres ou nos plantons maintenant pour éviter la propagation de ces maladies ?
Oui, alors justement, si on commence de traiter, en plus, si on veut combattre avec un produit, on a des produits naturels, on a des produits à base d'huile, on a différents produits qu'on peut trouver dans le commerce. Mais il faut savoir que ces produits vont faire une efficacité seulement si on a une température un peu constante. Si on a une température qui fait trop froid, le produit ne fera pas d'effet. Donc, il faut être patient, il faut laisser faire la nature. Il y a des ennemis qui vont venir se poser, des ennemis naturels qui vont venir se poser et puis se mettre en place. Donc, on n'a pas besoin de tout dérégler le système que la plante va utiliser. Donc, on a meilleur temps d'être patient, observer et puis des fois, bien, ma foi, vivre avec quelques feuilles tachées sur un fraisier ou bien une partie de son pêcher qui n'est pas en bel état, eh bien, on va vivre avec. On voit aussi maintenant, par exemple, sur les arbres fruitiers qui sont des arbres qui commencent de faire des petites feuilles qui sont très petites, très fines, elles sont très sensibles. Donc là, je parlerai plutôt d'un parasite, maintenant c'est un puceron, il vient vous piquer le bout des feuilles qui vont se rouler. Donc ça, c'est plus une maladie, c'est un puceron qui pique les feuilles. La feuille se roule. Donc on peut tout de suite sévir, mais la nature va être faite que ces pucerons vont disparaître dès qu'il fera chaud et sec. Donc on va laisser ça. Ces petites feuilles vont tomber, puis la plante va refaire un nouveau feuillage. Donc il faut aussi laisser le temps à la plante de se combattre contre ses problèmes toute seule, sans toujours aller y mettre quelque chose qui n'est pas forcément toujours nécessaire.
Et ça nous rassure de le savoir que la nature est bien faite et qu'elle fait aussi très bien son travail. Alors vous l'avez dit, hein, patience, observation. Olivier, vous avez peut-être un dernier conseil pour nos végétaux qui subissent ces variations de température, parce que c'est pas encore ce week-end qui va faire 20 degrés.
Non, alors justement, c'est compliqué parce que la plante, mais comme tu l'as dit très bien avant, la nature est très très bien faite. On a vu aussi, par exemple, les arbres qui sont en fleurs depuis bien bien des semaines maintenant. Donc, il y a eu des belles périodes de chaud. Il faut savoir qu'on allait dans des vergers où c'est qu'il y avait des pommiers qui étaient en fleurs. On entendait bourdonner. Donc, les abeilles ont fait leur travail. On les voit moins parce qu'elles sont rentrées. Elles sont aussi au chaud comme nous. Donc, il faut de nouveau être patient. Ces fleurs qui ont été pollinisées, qui ont été fécondées, ne sont encore pas toutes mortes, si je peux utiliser ce mot. Donc, on aura encore passablement de fleurs qui sont à féconder. Mais il faut juste être patient. Ça va se passer. On a toujours ces périodes de retour d'hiver qui sont mi-avril, fin avril. On peut les avoir même plus tard. On a eu parlé des saines glaces, mais ça, on n'est encore pas dans cette période-là. Donc, on a encore des périodes de froid qui vont arriver, mais la nature se défend toute seule, donc il faut non plus pas toujours s'alarmer trop tôt.
Merci Olivier pour vos précieux conseils. Dans la suite des jardinières, vous allez répondre aux questions des auditeurs, des questions que vous pouvez nous poser en direct en nous appelant au 0901 70 20 20.
7h, 8h, les jardinières.
7h45 chez les jardinières, il est temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Avec vous, Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste à Port-en-Truy. On va commencer par cette question de Dominique de la Côte-aux-Fées qui nous dit « Bonjour, j'ai rempoté plusieurs plantes et malheureusement il y avait des moucherons dans le terreau. Du coup, il y en a partout. » Je pense qu'elle parle des moucherons. « Comment faire pour m'en débarrasser ? Bon week-end à vous. »
Alors c'est un petit problème qu'on rencontre assez souvent, ces petits problèmes de moucherons qui vont venir se poser sur la surface du pot quand vous avez rempoté une plante. Alors comme je le disais au départ avec les pyrales, j'aime bien comprendre le pourquoi, d'où ça vient. Donc ces moucherons sont venus par des œufs, ces œufs étaient dans le terreau. Et des fois le terreau, on a des sacs de terreau qu'on va laisser stocker à quelques endroits. Et puis bien, il y a eu des mouches. Donc des petites mouches qui sont venues pondre des œufs, soit aux abords des sacs, soit sur le sac, soit le sac était ouvert et puis est venu se multiplier, ces petits moucherons, dans ce terreau, donc les œufs. Et puis quand elle a mis ses plantes en place, elle a automatiquement arrosé. Et puis vu qu'il y a eu de l'humidité, eh bien ces œufs se sont éclos. Et puis on a une belle petite levée, une volée de petits moucherons. Alors pour combattre cette chose, je reviens toujours avec un élément qu'il faut utiliser, qui est le plus naturel le plus possible. S'il est venu ces moucherons, c'est à cause de l'humidité. Donc il faut faire attention de ne pas avoir trop d'humidité. Ça vient souvent justement quand les plantes sont trop arrosées, trop bassinées. Donc on va réduire fortement l'arrosage et puis normalement ces moucherons doivent disparaître. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi utiliser la méthode de mélanger la terre de surface plusieurs fois, la faire sécher, la brasser, que ces œufs se mélangent avec et puis se trouvent soit enterrés, soit écrasé ou mais enterrer et asphyxier. Donc dès qu'on en voit, il faut remuer fortement la surface de cette terre pour essayer de les éliminer le plus rapidement possible. Après, il y a toujours la petite méthode où c'est qu'on peut utiliser un produit, mais moi je pense que mécaniquement c'est très facile à les éradiquer.
Merci beaucoup Olivier. On va passer à la question suivante de Marie-Madeleine de Delémont. Pouvez-vous me dire quel est le problème avec mes pommes de terre de l'an passé et que puis-je faire contre ? Alors elle nous a joint une photo.
Oui, alors tout à fait. Là. Alors il y a plusieurs choses sur cette photo qu'on voit, ces pommes de terre. Je dirais, mais il y a trois choses. La partie jaune du feuillage, eh bien, c'est une partie, soit c'est une carence, donc c'est un manque d'éléments nutritifs dans son sol, mais ça peut être aussi une petite attaque de mildiou. Et ça, quand on a quelques feuillages jaunes dans son jardin avec quelques plants de tomates, eh bien on va aller arracher ces feuilles de pommes de terre. On va le voir aussi sur les tomates, par exemple. Donc on peut couper ces feuilles, les éliminer, les mettre à la poubelle carrément pour éliminer la maladie qui va avec. Par contre, elle a aussi des petits trous tout petits qui sont piqués. Et ça, justement, c'est une maladie fongique. C'est un champignon qui s'est développé. Et puis, ça fait un tout petit rond. Et puis, c'est le champignon qui fait ce petit rond. Donc, on en voit très souvent sur ces pommes de terre. C'est justement peut-être qu'elle a eu une fois un écart de température, même en été. Hein, c'est pas qu'au printemps, où c'est qu'il y a eu une nuit un peu fraîche, où elle a peut-être arrosé son jardin. Il y a eu trop d'humidité, un coup de chaud, un coup de froid. Et puis, ça a développé cette petite maladie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très grave, c'est juste que le feuillage n'est pas très beau, mais il faut essayer d'éviter justement soit de les arroser le soir ou d'arroser sur le feuillage. Si elle les a arrosés, ça peut être que ça. Donc c'est des choses qui sont simples à gérer, mais après c'est pas nocif pour sa plante. Je dirais même qu'il y a quelques feuilles même qu'on voit qui ont été très mangées, morcelées. Ça peut aussi être sur une pomme de terre des attaques de doryphores, de parasites qu'on va trouver sur cette culture spécifique. Donc les doryphores, on sait qu'on peut les ramasser très facilement à la main, les éliminer sans de nouveau avoir besoin d'un recours de produits ou de quelque chose de différent pour ça. Donc je pense qu'elle n'a pas grand-chose à faire, juste un petit peu les observer et puis avoir une qualité de culture un peu plus saine pour sa pomme de terre.
Et on espère des bonnes frites bientôt. On va parler de courges, Olivier. Bonjour, j'ai semé des graines de courges qui se sont bien développées. Elles forment déjà des fleurs et Jean-Claude nous demande si c'est trop tôt pour les sortir et les mettre sous serre. Comment les habituer à la fraîcheur extérieure ? Il nous précise qu'il habite au Val de Travers.
Alors, Val de Travers, on sait qu'il ne fait pas trop chaud là-bas. Les mettre sous serre, ça dépendra de la serre. Si c'est vraiment une grande serre, non, il peut déjà les planter en serre. Après, mettre des courges en serre pour toute la saison d'été, je pense qu'il ne veut pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'il demande quand il peut les ressortir. Donc, sa plante, il a peut-être commencé un peu tôt cette année. Donc, il va changer sa méthode pour l'année prochaine. Essayer de faire son semis un peu plus tard. Parce qu'un semis de courge, moi, je dirais, il faudrait le faire maintenant en pot, justement, pour pouvoir les mettre après en terre autour du 15 mai directement. Ce serait bien assez tôt. Mais s'il a déjà ces plants qui sont là, qui ont déjà des fleurs, alors moi je supprimerais les fleurs, donc les enlever, parce que de toute façon elles ne vont pas être fécondées. Donc couper les fleurs pour ne pas prendre trop de force à cette plante. Et puis couper soit les extrémités, si elle a déjà fait 2-3 pouces de longueur, couper l'extrémité, garder cette plante dans un endroit lumineux, le plus frais possible, mais quand même à l'intérieur, et pour qu'elle ait beaucoup de lumière, que cette plante se durcisse, et puis pas hésiter de couper quelques feuilles, couper quelques bouts de tiges pour la garder petite, puis dès que la météo le permettra, ben aller les mettre à l'extérieur, en les protégeant peut-être avec un petit voile, un petit agril, quelque chose qui protège les premières semaines de sa mise en place. Et puis après, ben normalement, elles doivent passer. Mais les fleurs, moi, je les enlèverai tout de suite maintenant.
Merci beaucoup Olivier. Le temps file, c'est bientôt la fin des jardinières. Avant cela, on va passer un peu de musique.
7h, 8h. Les jardinières.
Le temps file et il est déjà presque le moment de vous laisser partir skier, Olivier, par exemple. Est-ce que vous avez encore quelques conseils à donner à nos auditeurs passionnés de jardin pour ce week-end ? On a parlé de semis, il faut faire attention. Hein.
Oui, alors je vais rester sur ces lancers-là. Il faut faire attention à ces jeunes petites plantes qu'on est en train de préparer à l'intérieur. Avant de les sortir, il faut être patient. On arrive à les maîtriser, on arrive à les garder dedans. Refaites encore peut-être, parce que ressemer quelques graines, des fois, ça coûte pas grand-chose pour être sûr d'avoir après assez de plantes à mettre en place. Donc, soyez patient. N'allez pas dans une terre mouillée dans le jardin maintenant, mais les jours vont revenir assez vite et puis on pourra aller mettre nos petits jeunes tomates et poivrons et autres être en place, mais c'est encore un peu tôt. Donc moi, je pense qu'il faut être vigilant avec cette prochaine semaine de froid, et puis ça va passer pour être mieux après.
Merci Olivier. On rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Bon week-end et à bientôt.
Ben, merci à vous, bon week-end.
Bon week-end. Prochain rendez-vous avec les jardinières, ça sera donc samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Cathieu Racine, jardinière et guide de randonnée nature à Delémont. Et nous parlerons de l'actinidier. Brian, vous savez ce que c'est, l'actinidier ?
Évidemment, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer.
On va laisser... Olivier, vous savez ce que c'est un actinidier ?
On va laisser la personne le raconter la semaine prochaine, non ?
Ça, c'est du... Est-ce que... J'ai de la peine à me dire, est-ce qu'ils ne savent pas ? Mais c'est... Je suis sûre que vous savez. Bon, on verra tout ça samedi prochain, 17h, chez les jardinières. Bon week-end à toutes et à tous, et puis attention, froid, à bientôt.
7h, 8h, les jardinières.